Alors, bonjour Serge, je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui puisque j'avais lu la V1 de ton livre il y a quelques temps. Alors, je crois que je l'ai donné, je crois, à une de mes collègues, c'est pour ça que je n'ai pas la V1. Et c'est vrai que tu m'as envoyé la V2, mais je suis vraiment content parce que des livres sur la culture client, il n'y en a pas énormément. Et cette version-là qui a été améliorée et optimisée, bah, j'étais content de commencer à la lire. Alors, je n'ai pas encore fini parce qu'il y a quasiment 200 pages, 150 pages, 200 pages. Mais ce qui est bien, c'est que c'est relativement simple à lire. J'aime bien les petits encarts, les petits visuels. Alors, je ne sais pas si on le voit là. Mais il y a des petits visuels aussi de temps en temps, avec le visuel de l'iceberg que j'aime beaucoup, qui matérialise bien ce qu'on appelle le concept de culture client. Donc, j'ai assez un petit peu parlé de moi. Je vais te laisser un petit peu te présenter et présenter ce livre et pourquoi tu l'as écrit.
Bonjour Frédéric, merci de m'inviter. Alors, donc moi, je baigne dans la culture client depuis une bonne vingtaine d'années, puisque j'ai créé le cabinet Way Consulting il y a maintenant 23 ans. Après un passé en tant que consultant dans le domaine du CRM, hein, c'était la première vague, fin des années 90, de mise en place des CRM, des fameux CRM. Et à l'époque, je me disais, mais OK, ça fait travailler les consultants, les éditeurs, mais finalement, ça apporte pas beaucoup de valeur aux entreprises. Et pourquoi? Essentiellement parce qu'il y avait une vraie incompréhension de la part des entreprises sur l'objectif de cet outil, ce qu'on pouvait faire avec ce type d'outil. Donc, on a créé Why avec l'idée de dire, bah, avant tout, il faut travailler sur l'humain et les convictions des équipes. Et donc sur la culture client avant de penser organisation et outils. Voilà un petit peu la genèse de Why. On est né à Why Consulting, on est né autour de cette idée qui était un petit peu avant-gardiste à l'époque, qui aujourd'hui évidemment pleinement d'actualité. Alors pourquoi ce livre? En 2015, je me souviens, certains de mes clients me disaient, bah, culture client, c'est très bien, mais pour nous, ça reste intangible. Qu'est-ce qu'on appelle culture client? C'est quoi par rapport à la relation client, l'expérience client? C'est pas très clair. On aimerait quelque chose de plus concret. Donc, l'idée a été de rédiger un livre assez simple sur ce qu'est la culture client, très concrètement, pour les managers, les dirigeants d'entreprise, pour vraiment, entre guillemets, concrétiser ce concept. Et avoir un livre qui se lit, j'allais dire, dans un TGV, sur un Paris-Lyon, peu ou à peu près. Voilà. Donc c'était ça la genèse du bouquin.
D'accord. Alors justement, c'est une nouvelle version, la deuxième édition. Donc tu m'as dit 2015. Là, elle vient de sortir. Il y a quoi? Il y a un petit mois. Donc c'était en début. Je crois que c'était en début mars ou un truc comme ça. Donc qu'est-ce qui a changé entre la première édition et cette nouvelle édition dans la culture client?
Alors, on a rajouté évidemment un chapitre, comme on le fait souvent avec les nouvelles éditions, mais un chapitre sur le projet de mise en œuvre du projet culture client. Voilà. Hein. Un manager qui est séduit, il dit, bah, OK, mais je fais comment? Quelles sont les étapes? Voilà. Donc, on a rajouté, c'est le dernier chapitre, un sujet sur comment on y va, hein, quel est le chemin vers l'excellence client. Ensuite, évidemment, on a mis à jour les nombreux exemples, les nombreux cas qui sont cités. Donc, on cite pas mal d'entreprises. Alors, évidemment, on cite que les bons élèves, on ne cite pas les mauvais. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des évolutions, puisque depuis 2015, bah, il y a des entreprises qui ont évolué pas forcément dans le bon sens, suite à un changement de management qui met davantage l'accent sur le financier. Bah, il y a eu des sociétés qui se sont fortement dégradées. Voilà, bah on n'en parle plus. Voilà, on le
Ouais,
détaille. Et
puis
puis.
c'est vrai qu'on voit ça quand il y a une culture client, souvent les clients sont plutôt satisfaits. Quand il y a une focus sur le chiffre d'affaires, on voit tout de suite les avis clients, les retours clients sont négatifs. Et petit à petit, ça effrite l'image de marque et surtout, ça effrite les marges. Et à plus ou moins long terme, forcément, cet aspect trop focus sur l'argent, le court terme, forcément, ça va au détriment de l'expérience client. Et forcément, les clients insatisfaits, ils vont faire un bouche-oreille négatif, ils vont parler aux autres et les gens vont partir de l'entreprise. Ils vont se dire, mais de toute façon, on s'en fout des clients. Ce qu'il faut, c'est rentrer du pognon, rentrer de la marge. Et forcément, ça dégrade la relation client.
Exactement, exactement. Et donc, ça touche vraiment toute l'entreprise et ça touche la manière dont l'entreprise va exprimer sa propre stratégie. C'est vrai, je dis souvent que dans l'ancien monde, on était sur des stratégies créatrices de valeur pour les actionnaires, et maintenant, c'est plus possible. Alors, les entreprises doivent être sur des stratégies qui créent de la valeur pour le client, l'actionnaire étant celui qui va bénéficier de ce positionnement. Et là, effectivement, on travaille beaucoup aujourd'hui, depuis quelques années, avec les directions générales pour changer complètement cette logique stratégique. Donc, on voit que c'est quand même une opération d'assez longue haleine. Voilà. Alors, ce qui a changé également, c'est qu'on a développé tous les aspects RSE, développement durable, qui ont pris une importance, je vais dire peut-être pas nouvelle, mais une importance beaucoup plus grande qu'en 2015, où on était encore un petit peu dans le greenwashing. Et puis aussi, il y a eu la crise Covid, et on a développé l'aspect collaborateur. C'est qu'on ne peut pas mener un projet client avec succès si on n'a pas l'ensemble des collaborateurs derrière soi. Or, aujourd'hui, la crise Covid a révélé un certain nombre de malaises dont on parle dans le bouquin, et qui demandent à ce que l'approche managériale d'animation des équipes soit complètement revue. Donc, on en parle largement dans le bouquin.
Ouais. Alors justement, ton livre, donc c'est une culture client, mais le sous-titre, c'est l'ultime différenciation entre les entreprises. Alors, pourquoi, c'est une question qui peut paraître bête, hein, mais pourquoi la culture client est l'ultime différenciation entre les entreprises?
En fait, c'est très simple. Le client, c'est la raison d'être de l'entreprise. Il n'y en a pas d'autre. Hein, il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de client, s'il n'y a pas d'utilisateur, etc. Et c'est vrai qu'en se connectant au client, on est à l'origine, on voit tout de suite toutes les évolutions du marché. On est capable de voir les décalages, les nouvelles habitudes des clients, les nouvelles problématiques chez les clients qui apparaissent. Et donc, on est capable de réagir très tôt et de réagir avant la concurrence. Voilà. Donc, le vrai sujet, c'est comment on crée cette connexion. Et donc, on se donne la capacité à agir beaucoup plus vite que la concurrence, à détecter des problématiques avant les autres. Et donc, y apporter des solutions plusieurs mois avant les concurrences. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment l'ultime différenciation qu'on peut construire, c'est à travers cette prise de conscience de l'ensemble des équipes que le client fait vivre l'entreprise, paye les salaires en fin de mois, et donc du coup, même celui qui ne voit jamais un client va penser client, et puis il va en voir évidemment dans la durée le résultat, parce qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça effectivement pour développer, pour renforcer la rentabilité, pour investir et pour aller plus vite et plus loin que les concurrents. Et d'ailleurs, c'est un développement qui est intéressant, mais à se retrouver de façon ultime dans une situation de monopole. Pourquoi ? Parce que petit à petit, on est plus performant que les concurrents, et on les rachète. Mais si on garde bien une culture client forte, le client il va se dire finalement, je n'ai pas le choix, je passe par vous aujourd'hui. Mais vous me traitez comme si vous étiez en concurrence permanente. Et c'est ça la culture client.
Alors, est-ce que tu aurais justement un exemple ? Parce que c'est vrai que ça fait un petit peu rêver de se dire, avec ma culture client, mes collaborateurs, ce que je fais vivre aux clients, je veux vraiment me différencier. Est-ce que tu pouvais nous donner un ou deux exemples d'entreprises qui ont vraiment réussi à mettre en place là, pas jusqu'à forcément cet aspect de monopole, de fait, mais est-ce qu'il y a vraiment une entreprise qui a vraiment mis en avant sa culture client comme étant waouh, c'est eux, voilà.
Il y a quelques exemples célèbres aux États-Unis dont je parle dans le livre, mais si on prend l'entreprise de la personne qui m'a fait vraiment l'honneur de signer la préface, qui est Corsica Linea. Alors, Corsica Linea, c'est un opérateur de transport entre le continent et la Corse et le Maghreb. Et c'est en fait l'ancienne SNCM que tout le monde connaît négativement, puisque c'était une entreprise qui, dans les années 2000, a rencontré quand même pas mal de problématiques. On s'en souvient tous. Et ça a été repris par des entrepreneurs en 2016 avec le focus client en ligne de mire. C'est-à-dire qu'ils ont reconstruit toute l'entreprise autour du client. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis, cette entreprise n'a pas cessé de prendre des parts de marché à ses concurrents, de se développer, mais a été rentable dès 2016, d'ailleurs. D'un point de vue financier, c'est assez épatant. Voilà. Donc, c'est un exemple où on a repris une entreprise un petit peu ancienne qui est en difficulté, voire qui était de plus en plus évitée par les clients. Et on en a fait un succès parce qu'on a placé le client au centre de toutes les préoccupations. Donc, sur les bateaux et puis sur les quais et puis voilà. Alors, les clients particuliers, mais aussi les clients collectivités locales qui utilisent ces services, les clients transporteurs, routiers qui utilisent aussi les bateaux pour transporter les marchandises, etc. Voilà. Donc c'est un vrai succès.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est la communication, ce sont de la formation. Qu'est-ce qu'il y a eu de manière concrète pour faire changer cette culture? Parce que, comme tu l'as dit, la SNSM, pour moi, c'était les grèves, les dockers, les bateaux qui étaient bloqués. Donc, plutôt une orientation, voilà, on est au service public, etc. Donc, moi, cette orientation client, quel un ou deux exemples de ce qui a été mis en place pour faire changer cette mentalité et faire une entreprise qui est orientée client, customer-centric?
Le premier levier, il est managérial. C'est-à-dire, c'est passer du temps avec les équipes pour leur expliquer. Hein. Et donc, énormément, le nouveau DG a passé les 6 premiers mois sur les bateaux, à expliquer son projet d'une façon très transparente et très simple. Et en expliquant pourquoi le client allait être finalement la bouée de sauvetage de cette compagnie. Et petit à petit, effectivement, bah, la conviction a été. S'est répandu dans les équipes, puis dans les bateaux, il y a eu des relais de cette conviction qui sont apparus. Et voilà comment l'histoire a commencé. Mais c'est beaucoup de temps à passer pour expliquer ce qu'on veut faire. Le deuxième point, effectivement, qui a été très intéressant, c'est le point de vue du client. C'est-à-dire être connecté en permanence au point de vue du client. Donc, il n'y a pas une traversée sans qu'on demande au client un petit peu ce qu'il a aimé ou ce qu'il a détesté et pourquoi il l'a détesté. Donc, et j'allais dire, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est une attention sincère de la part des équipes qui vont aller interroger les clients. Voilà. On sent, les clients sentent très vite la sincérité parce que bah, c'est passé, ça y est, dans la culture. Hein, le client, c'est important et tout le monde le sait, y compris celui qui n'est pas en contact direct avec les clients.
Ouais, c'est un très bon exemple. Mais justement, dans ton livre, tu as un chapitre qui est assez intéressant, qui explique comment imaginer des solutions qui vont enchanter le client. C'est vrai que l'enchantement du client, c'est quelque chose qu'on aime bien. Alors bien sûr, faut bien sûr satisfaire ses besoins essentiels. Mais le chapitre 4 là-dessus, je trouve qu'il fait une vingtaine de pages là-dessus, segmenter, prioriser les offres spécifiques du sur-mesure. Dis-moi un petit peu. Comment justement ce que tu préconises pour mettre en place des solutions qui vont enchanter les clients et aller au-delà de la simple satisfaction?
Alors, il y a tout l'aspect relationnel qui est important que je développe, d'ailleurs dans un des premiers chapitres, mais il y a des fondamentaux dans la relation. Il n'y a pas besoin d'aller interroger les clients pour savoir qu'ils apprécient qu'on puisse les écouter, qu'ils apprécient un client, une entreprise qui va leur fournir l'information utile, qui va reconnaître ses erreurs aussi, parce qu'aucune organisation n'est parfaite, etc., etc. Il y a un certain nombre comme ça de fondamentaux qu'il faut implémenter dans la relation qu'on a avec les clients. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, comme je dis, il faut passer du temps avec le collaborateur pour leur expliquer le projet, pour qu'ils comprennent le sens qu'on veut donner à l'entreprise, parce que le client donne du sens. On sait pourquoi on travaille, hein, quand on a un projet client. On ne travaille pas pour un actionnaire, ça n'a aucun sens pour un salarié. Mais travailler pour un client qui va exprimer vraiment sa satisfaction, ça a un sens important. Au même titre qu'il faut passer du temps avec les collaborateurs, il faut passer du temps avec les clients pour aller les écouter, tout simplement, comprendre un petit peu leur métier, comprendre leurs problématiques, comprendre aussi leurs points de douleur. Or, aujourd'hui, même si toutes les entreprises ont des enquêtes de satisfaction, je dirais, il n'y a pas 10% des entreprises qui ont une écoute réelle et sincère des problématiques de leurs clients. Alors, passer du temps chez un client pour comprendre un petit peu ce qui se passe, comment ce qu'on livre est incorporé dans une chaîne client, comment voir un petit peu les difficultés que le client peut rencontrer. Ça, passer du temps à faire ça, c'est faire émerger des nouvelles idées. Et donc, du coup, faire des propositions qui vont vraiment contribuer à rendre le client plus performant. Hein. Donc, non seulement ils se sont bien traités parce qu'il a vraiment, on a implémenté les fondamentaux d'une relation de confiance, mais en plus, on a des solutions qui vont amener de la valeur au client, lui faire gagner du temps, de l'argent, voir si on est en B2B, l'efficacité sur son propre marché. Voilà. Et là, on est dans une, évidemment, dans une dynamique qui devient extrêmement intéressante pour la suite.
Alors, il y a un autre chapitre qui est un petit peu lié à ça, mais je dirais même qui est juste en amont de cet aspect enchantement, c'est l'excellence dans la relation client et dans l'expérience client. Ça, c'est un chapitre qui fait quasiment allez, une quinzaine de pages aussi dans le livre. Comment peut-on faire et comment fait-on? Quels sont tes trois conseils clés pour miser l'expérience, l'excellence opérationnelle dans la relation client? Parce que c'est vrai que on se dit bien si on n'est pas sur les fondamentaux, enfin si on répond pas déjà aux fondamentaux, aux attentes essentielles du client, ça ne marchera pas, on n'arrivera jamais à l'enchanter, à avoir un client qui va faire un waouh. Comment, quels seraient pour toi les trois conseils clés?
Alors, les trois conseils clés, déjà, c'est de revoir l'organisation. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un projet d'entreprise qui est assez ambitieux. Mais souvent, on a des organisations qui sont très silotées et organisées métiers, et non pas organisées selon les marchés, les types de clients qu'on veut servir. Par exemple, je donne un exemple, on a une équipe de commerciaux un petit peu polyvalent, alors qu'on va servir le domaine de la banque, on va servir le domaine des opérateurs télécoms. Donc, on aura du mal à avoir des équipes qui vont parler le même langage que le client. Donc là, déjà, un petit peu différencier son organisation pour vraiment parler le même langage que le client, hein, être très proche du client. C'est un peu aussi comme Decathlon, hein, qui va mettre comme chef de rayon des pratiquants, hein, des sportifs qui vont parler le même langage que ceux qui vont venir.
Oh, ils ont utilisé les produits, ils les ont essayés, ils sont capables de donner de vrais conseils opérationnels,
Voilà.
pas juste dire à cette marque-là, mieux que l'autre, mais expliquer voilà pourquoi ça c'est mieux et ça c'est intéressant.
Après, une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment revoir ce que je dis toujours, les processus relationnels finalement. Alors, processus, c'est un gros mot pour moi, mais il faut quand même un petit peu d'organisation et de fonctionnement. Donc, revoir pour voir si on intègre bien ces fondamentaux de la relation client finalement. Voilà, souvent, on met en place des processus et on oublie d'intégrer les attentes fondamentales, les attentes relationnelles fondamentale des clients. Je donne un exemple, par exemple, une société d'assurance qui supprime des agences de proximité pour des raisons économiques et qui veut mettre en place un centre d'appel. Eh bien, intégrer les besoins relationnels des clients, c'est de dire, ben voilà, on va avoir un premier niveau où on va écouter le client pour bien comprendre sa problématique. On va le mettre ensuite en relation avec quelqu'un qui va pouvoir prendre en charge sa problématique. Mais la personne qui a réceptionné l'appel va expliquer à celui qui va résoudre l'appel la situation du client, le client étant au bout du fil, donc le client n'ayant pas à se répéter. Et puis celui qui va résoudre l'appel va se présenter et va donner un numéro de téléphone direct en disant, je serai votre interlocuteur le temps de résoudre effectivement votre demande. Donc le client, il n'a pas eu à se répéter, il y a quelqu'un qui a pris en charge sa demande et il a un interlocuteur qui va permettre, qui va pouvoir joindre par la suite. Et non pas tomber dans un anonymat qui est destructeur de
Et
confiance.
c'est souvent le problème des centres de contact quand on enlève les agences locales, quand on fait un centre de contact, on est sur une armée des ombres où les gens appellent 50 fois et c'est jamais la même personne, ils sont jamais sûrs de la bonne réponse et ils manquent de suivi. Ça, c'est vrai que c'est un cas qu'on voit souvent.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut organiser et dimensionner. Hein, et qui va apporter énormément de valeur. Dans l'exemple que je cite, non seulement on n'a pas perdu de clients, mais on a eu un churn rate qui a diminué, c'est-à-dire un taux de rotation client qui a forcément diminué. En fait, on répondait mieux aux attentes relationnelles à travers ces centres de contact et ce fonctionnement bien, bien étudié que dans l'ancienne organisation où le chargé de clientèle n'était pas forcément disponible
Oui, parce
pour
qu'il
ce
fallait se
moment-là.
déplacer, il faut prendre rendez-vous, la personne n'est pas forcément là, on est obligé de prendre une demi-journée. Bien sûr que quand les gens travaillent, ils travaillent, mais quand ils veulent des informations, c'est en soirée, le week-end, et forcément que c'est mieux de pouvoir avoir des horaires. Là, à ce moment-là, il faut des horaires étendus ou des canaux de communication asynchrone, comme de l'email, du chat, et des choses comme ça.
Exactement. Et après, bah, le troisième conseil, c'est les relations internes. Il n'y a pas de logique relationnelle. Il n'y a pas la logique, voilà, je développe la confiance des clients, et puis en interne, quand on fait appel au service support, c'est difficile, c'est rugueux, ils ne m'écoutent pas, voilà, je ne fais pas avancer le sujet client. Donc, c'est développer cette excellence en interne avec des services support qui vont considérer qu'ils font partie de ce projet client, cette chaîne client, et qui vont devoir adapter leur service interne pour permettre aux opérationnels en contact avec les clients d'être le plus efficace possible. Donc, c'est un état d'esprit également à développer, qu'on voit par exemple bien peu dans les banques, hein, souvent quand vous allez demander à votre chargé de clientèle un prêt un peu particulier, que ce prêt est refusé, le nouveau chargé de clientèle vous dit c'est refusé, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a un comité des risques que personne ne connaît qui m'a donné cette réponse. Moi, je pensais que ça allait être accepté, ça n'a pas été accepté. Donc, on voit bien qu'en interne, là, ça ne fonctionne pas bien. Et ça met d'ailleurs en difficulté la personne qui est en charge de la relation client. Parce qu'il n'y a pas cette homogénéité de l'approche client. Alors que le service des risques peut développer un temps des services pour aider le chargé de clientèle en amont à dire non, votre dossier ne sera pas acceptable, je vais vous faire gagner du temps et de l'efficacité. Voilà.
Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup dans les relations et penser client. Alors, justement, est-ce qu'il y a un autre point clé que tu voudrais vraiment mettre en avant? Parce qu'à chaque fois, à chaque fin de chapitre, il y a un petit ce qu'il faut retenir, il y a des cas clients, il y a des exemples. Est-ce qu'il y a un autre exemple ou quelque chose que tu voudrais vraiment faire passer sur ton livre afin que les futurs lecteurs se disent waouh! Allez, je me précipite tout de suite, je vais chez mon libraire, je vais à la Fnac, je vais sur un site e-commerce. Et s'il y a un argument qu'il faut mettre en avant pour décider les futurs lecteurs à aller ou plutôt dans leur librairie la plus proche.
Alors, c'est un argument. Je parlais peut-être d'un autre livre, j'allais dire bien connu de stratégie. Je crois que ça s'appelait, j'ai plus le titre en tête, Océan Bleu, la
Ah
stratégie.
oui, la stratégie Océan Bleu de Kim Chang et Moborg.
Exactement. Bon, en fait, la culture client, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ni plus ni moins un moyen d'être toujours dans l'océan bleu. Et du coup, de rendre finalement l'émergence d'une concurrence de plus en plus difficile. Parce qu'on peut, comment dire, on peut facilement copier un service, on peut copier un produit, un logiciel, etc. Ça, c'est facile, c'est une question de moi, c'est une question d'investissement, etc. Par contre, on ne peut pas effectivement copier l'historique et la qualité d'une relation. Et c'est cette historique et cette qualité de la relation qui va permettre d'avoir toujours une longueur d'avance. Et là, la condition à ça, c'est vraiment que l'entreprise aille jusqu'au bout de la logique qui est simplement, finalement, si je résume mon livre, c'est mettre le client au sommet de tout. C'est la priorité absolue. Alors, un de mes clients me disait, à l'exception de la sécurité des collaborateurs. Et évidemment, ça, il avait tout à fait raison. Mais c'est vraiment à tous les niveaux de décision, que ce soit sur le terrain ou au niveau comité de direction, le client, le point de vue du client, l'intérêt du client prime sur tout le reste. Et sur l'intérêt évidemment, l'intérêt de l'entreprise. Je pense d'abord à mon client avant de penser à mon propre intérêt. Et en fait, c'est cette logique-là qui va créer cette fidélité et cette durabilité dans la relation.
C'est vrai que j'aime bien cette parole-là parce que c'est lorsqu'on a animé une conférence au Salon Stratégie Client avec la Massif, là, il y a 3 semaines de cela, C'est vrai qu'ils nous ont dit qu'ils avaient le comité réclamation. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr, il y a le process classique quand un client, il n'est pas content, il fait une réclamation. Et si ça monte encore une fois, si ça escalade, eh ben, en fait, il y a ce comité de réclamation qui rassemble à la fois des assurés et des gens de la Massif. Et en fait, parfois, ils nous disaient, ben, il y a les assurés, les représentants des assurés, qui tranchent en faveur des assurés et contre les process ou les habitudes ou ce qui aurait dû être fait au niveau de la Massif, et ils remboursent des gens. Et c'est se dire, bah, il y a toujours une étape supplémentaire. Et c'est vrai que le fait de le matérialiser, de se dire, mais oui, il y a toujours un moyen, parce que le conseiller, parfois, il peut se dire, mais bah, j'ai répondu à la demande, le client s'est trompé, ou c'est pas dans les clous, ou il n'avait pas renouvelé, etc. J'y peux rien. Et s'il n'y a pas de choses au-dessus, ou de process, ou de culture client, il se dit, bah, désolé, monsieur, c'est comme ça. Par contre, si on se dit, bah, regardez, il y a ce comité, moi je peux rien faire de mon côté, mais il y a ce comité réclamation qui existe et avec des personnes. Alors bien sûr, dans 100% des cas, ça ne passera pas pour le client, mais dans certains cas, ça passera. Et ça, en fait, ça permet de dire, mais ouais, le client, il compte vraiment pour moi.
Exactement. Et c'est cet élément de souplesse qui est très important. Dans le secteur des assurances que tu cites, par exemple, c'est cette capacité à répondre positivement suite à un sinistre, si c'est le premier sinistre depuis 10 ans. On ne va pas pénaliser la personne. Ça arrive. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié et qui rentre dans le processus de fidélisation très, très fortement. Mais souvent, on est dans des entreprises qui sont dans leur process, qui sont quand même axés avant tout sur leurs propres intérêts et pas sur les intérêts de leurs clients.
Ouais, et puis là, le client, comme tu le dis, si on lui dit, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas là, bon, enfin, vous êtes client, vous n'avez pas eu de problème, là, exceptionnellement, on va vous accorder. Le client, forcément, il va dire, non, mais je reste encore chez cette entreprise et je vais en parler aux autres et je vais avoir un bouche-à-oreille positif là.
C'est là où on aura l'effet waouh, quoi. On a envie de parler des clients ou des fournisseurs ou des commerces qu'on trouve extraordinaires de ce point de vue-là, parce qu'on se sent reconnu en tant que client. On sent bien que on est la raison de vivre du fournisseur ou du petit commerce, mais généralement les petits commerces sont bien compris.
Alors, si pour finir cet entretien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de plus sur toi et Y Consulting? Parce que tu as brièvement rappelé en fait la création du cabinet il y a 23 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, donc de la culture client, de l'accompagnement? Dis-nous un petit peu plus sur Y Consulting.
Nous, on aide justement l'entreprise, si je reprends le titre du livre, à se différencier à travers non pas son cœur de métier. Là, on n'a aucune compétence, enfin, métier, j'allais dire. Il faut être bon sur son métier de base, hein, il faut avoir le bon produit, le bon service, au bon niveau de prix. Ça, c'est un fondamental, mais ce n'est pas différenciant. Donc, on aide l'entreprise, on accompagne l'entreprise dans la construction de cette différence à travers cette relation. Donc souvent, ça passe d'abord par des processus d'écoute extrêmement élaborés, impliquant fortement les collaborateurs, les managers. Et c'est un point de départ. Parce que bah, du coup, on va mettre l'entreprise en position d'écoute réellement, c'est-à-dire au-delà des enquêtes classiques qu'on peut mener qui sont utiles, mais on va vraiment faire entrer la voix du client au cœur de l'organisation. Et aider l'entreprise finalement à comprendre ce que disent les clients, ce que veulent les clients. Donc là, on a des clés, et c'est Y Consulting qui a capitalisé là-dessus depuis des années. On a des clés de compréhension qui vont permettre à l'entreprise de mettre en place les bonnes actions. Donc notamment construire cette relation dans le temps, être beaucoup plus proche des clients. Et finalement, c'est important parce que si on laisse faire les entreprises, le client n'était pas content parce que le produit n'était pas de bonne qualité. Ah bah, il faut faire des produits encore de meilleure qualité. Bah, peut-être pas. Le sujet, c'est comment on a géré le produit de mauvaise qualité, hein, et comment on a transformé, pour reprendre le motto de la marque, le pépin en pépite, quoi. Hein, et c'est ça le vrai sujet, en fait. Et c'est ça qui va créer la fidélité. C'est pas le fait d'avoir le produit parfait. Il faut être dans son marché, évidemment. Mais c'est pas ça qui va différencier, effectivement,
Ouais, c'est votre rendez-vous lors des moments de vérité et savoir traiter un client avec égard quand il le mérite et quand il a vraiment fait un besoin. C'est là qu'il faut avoir cette volonté client, quoi, cette orientation client.
Il faut avoir ces repères-là. Ouais.
Ok, et donc si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet?
Bon, bah, le site de Y, hein, www.y-consulting.com. Donc là, vous verrez, donc on intervient sur ces processus d'écoute, après sur le développement des comportements clients qui vont générer des comportements qui vont générer la confiance. Hein, et c'est important, parce que souvent, nous, on travaille Donc, notre corps de cible, depuis le début, même si ça c'est de plus en plus divers et varié, mais c'est quand même des grandes entreprises B2B à fort contenu technologique qui ont une vraie culture technique et qui ont longtemps travaillé sur des monopoles. Voilà, et qui se retrouvent maintenant face à de la concurrence. Donc, voilà, comment on développe effectivement une orientation client, comment le management peut être moteur de ça. Et puis après, sur les pratiques commerciales, sur aussi l'élaboration d'un projet stratégique autour du client, on accompagne de plus en plus les directions en général. Et puis par rapport au livre, d'ailleurs, on a une demande qu'on fait maintenant assez fréquemment, c'est que c'est le diagnostic de la culture client. Finalement, par rapport à toutes les bonnes pratiques que vous nous conseillez, on en est où? Voilà. Donc ça, on fait ça, ça permet effectivement de. Ensuite, de fournir assez simplement des plans d'action d'amélioration des entreprises. Voilà. Donc, cabinet d'une dizaine de personnes en France, et puis une soixantaine de consultants indépendants qui nous accompagnent dans le monde, puisqu'on a des clients qui sont très internationaux. Donc, on les accompagne partout où il faut.
Merci Serge. Je te remercie pour cette interview passionnante. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le livre Culture Client, l'ultime différenciation entre les entreprises, donc chez Votre Libraire. Et précipitez-vous, il y a quasiment 160 pages de bons conseils pour diffuser une culture client dans son entreprise. À bientôt.
Merci Frédéric. Au revoir.